Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante, ce samedi matin, Sébastien, Églantine, Thierry et Laetitia, bonjour.
Salut Bernard.
Bonjour,
Bernard.
Bonjour tout le monde.
Sébastien Demorand, parmi les fruits du moment dont on ne se lasse pas, il y en a un qui est bien dodu, bien orange. Alors
oui.
Dites-nous, que faites-vous avec des abricots, puisque
rien.
Ce n'est assurément pas une saison de melon, je n'en ai
pas
mangé
encore.
Pratiquement
non,
que
non.
Des mauvais.
Mais les abricots, ça va.
Faut les éviter, mais
abricots,
les abricots sont bons.
Ah ben voilà, on les croque et puis c'est tout, c'est très bien. S'ils sont bien mûrs, s'ils sont bien sucrés, ça doit suffire à votre bonheur.
Exactement.
Bernard. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de maturité, comment on fait pour savoir qu'un abricot est bien mûr ?
C'est la couleur. On le palpe et on le sent.
Non, la couleur n'a rien à voir.
On croque dedans,
on le sent, exactement. C'est le parfum du fruit qui compte. C'est très important. Donc n'hésitez pas, ce matin au marché, à mettre le nez dans l'étal.
Si le
marchand ou la marchande est de bonne composition, il ne vous en voudra pas trop, j'espère.
Le nez, pas la main, parce qu'il ne faut pas
abîmer
les fruits des autres.
Avec le nez. Et n'oubliez pas aussi, accessoirement, c'est très important ça. Une fois qu'il a été cueilli, l'abricot, il ne mûrit plus, d'accord ? Donc ce n'est pas la peine de les garder 2-3 jours dans la corbeille à fruits. Voilà, si jamais vous avez mis la main sur les abricots un peu fermes, voilà. Exactement. S'ils sont un peu fermes, pas très parfumés à l'achat, c'est pas la peine de rêver. Vous les rattraperez pas. Voilà.
Alors, j'ai trouvé de bons abricots.
Oui.
À part les croquer, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ?
Mais il y a des tonnes de trucs à faire. Une tarte avec une vraie crème pâtissière, c'est fabuleux.
C'est un peu compliqué, la crème pâtissière.
Oui, mais alors, sinon, faites simple. Regardez, avec quelques fromages, Thierry. Des abricots, des lamelles d'abricots avec des chèvres frais. Mettez un peu de fleur de sel, un petit peu moulin, poivre, c'est vachement bien. Avec des petites cailles en cocotte, j'adore ça. Mettez quelques brins de romarin. Et n'oubliez pas, vous coupez vos abricots en 4 à la fin, vous les faites rôtir 5-6 minutes dans le jus de caille et c'est délicieux.
Ce côté un peu aigre-doux, c'est vraiment à la mode.
C'est canon, c'est très très bien.
Alors
vous allez vous boucher les oreilles, Bernard, parce que j'ai autre chose à vous proposer. C'est une recette qui est un tout petit peu plus longue, mais qui est vraiment hyper sympa pour accompagner par exemple en ce moment les travers de cochon grillés au barbecue.
Ça, c'est délicieux.
Ah, mais carrément bon. On va faire une espèce de chutney que vous connaissez maintenant évidemment, le condiment aigre-doux d'inspiration indienne. On va commencer par couper un gros fenouil en tout petits dés, d'accord ?
Oui.
Et une dizaine d'abricots en fine lanière.
D'accord.
On fait chauffer dans une casserole anti-adhésive un mélange de vinaigre de cidre ou de vinaigre de riz, si vous avez, avec quelques pincées de piment d'Espelette, un soupçon de sucre, une ou deux pincées de sel, une étoile de badiane, et on va compléter avec un tout petit chouïa de flotte à hauteur.
Et on fait bouillir, j'imagine ?
Absolument. Quand tout ça bouillonne bien, vous jetez dedans le fenouil, vous le faites cuire à peu près 5 à 7 minutes, puis vos lamelles d'abricot, vous rajoutez 3 minutes, oui. Et vous coupez le feu, et vous laissez tranquillement refroidir. Au moment de servir, on ajoute à cette préparation un petit peu de menthe ciselée très finement, le jus d'un demi-citron vert, ça c'est nickel, et puis vous goûtez, en fonction de vos goûts, vous ajoutez un peu de sel, un peu de piment, ou encore un tout petit peu de sucre si vous trouvez que ça manque de rondeur, et ça vous fait, moi je vous dis, un accompagnement super sympa au barbecue. Sachez-le, par exemple, tiens, on parlait des travers de cochon à l'instant, tendrons de veau.
Ah oui, oui, oui.
Ça peut le faire aussi.
Très, très bien.
Cela peut l'effectuer.
Excellente suggestion qui vous permet de rattraper cette chronique par les cheveux.
Merci, Bernard.
Parce que sinon, les trucs sucrés salés, moi je raffole pas. Églantine
oui.
Émeillée aujourd'hui avec vous, il est question d'un sujet que j'adore, les affiches.
Mais je sais que celui-là va
et
vous
Dieu
plaire
sait que celle de mai 68.
Voilà, je vous parle souvent des affiches qu'on peut chiner en brocante, affiches de publicité, affiches politiques, affiches de cinéma, tout est possible, il suffit d'avoir l'œil. Mmh. On peut trouver de véritables merveilles chez nos amis les brocanteurs. Et en ce moment, rien que pour vous, ce sont les affiches de mai 68 qui ont la cote. Difficile d'en trouver à moins de 50-60 euros et ça peut monter à plusieurs centaines d'euros pour
bien
les
sûr.
Plus connus. Mmh. Alors je voulais attirer votre attention ce matin sur un magnifique objet qui va vous plaire. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Alternatives. Ça s'appelle « L'affiche en héritage » par Michel Vlasikoff. C'est la nouvelle édition augmentée et mise à jour. Je vous laisse jeter un œil.
C'est absolument magnifique.
Mais les affiches, elles ont quand même toutes l'air de sortir du même moule.
Elles ont toutes été imaginées par les ateliers populaires des Beaux-Arts et des Arts décoratifs. Des ateliers créés dans ces écoles par leurs occupants durant mai 68. Elles sont donc réalisées chaque jour et chaque nuit après des réunions rassemblant les étudiants, les artistes, les travailleurs, qui décident ensemble du thème et du slogan. C'est à la fois un témoignage historique, mais aussi artistique d'une époque.
Notamment la liberté de la presse.
Et puis c'est l'apparition en France d'une technique qui va permettre d'imprimer en grande quantité des affiches, la lithographie, qui ne demande que peu de moyens.
Alors, en le feuilletant, en vous écoutant de ci, de là, j'ai vu des slogans tout en finesse.
Il y a plein de choses.
Et plein de très beaux casques de CNRS.
C'est ça. Et alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de le lire dans l'ordre, page après page, parce qu'il a été pensé comme ça, de façon chronologique. chronologique. C'est intéressant, ça nous permet de suivre tous les événements de mai 68, les uns après les autres, via ces affiches et ces slogans, qui sont des réactions à chaud aux déclarations des uns et des autres.
Il y a ceux très connus comme Cohn-Bendit, évidemment.
Oui. Et puis il y a surtout De Gaulle aussi qui est représenté, là, vous verrez, avec son képi de général. Je vous recommande tout particulièrement le fameux La Chienlit, c'est lui.
La Chienlit, c'est lui.
Édité en réponse à la déclaration du général, qui est le premier à utiliser ce mot.
Exact.
L'autre cible principale de ces affiches, vous le disiez Thierry, ce sont bien sûr les CRS. Alors là, la créativité est au rendez-vous. Et la notoriété aussi, avec le fameux slogan CRS-SS, qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous, les médias, on est bien servis aussi. Attention, la radio ment, la police à l'ORTF, c'est la police chez vous.
Il y a une reproduction d'une affiche de mai 68, d'ailleurs, dans le bureau, là, ici à RTL, à propos des radios qui étaient au service du pouvoir à l'époque. Mais enfin, c'était moins vrai, d'ailleurs, pour RTL, en l'occurrence.
Hein.
Et il y a des photos prises au sein de ces ateliers, je suppose. C'est des photos de Marc Riboud.
Oui, alors ce sont des photos très rares, parce que les photographes n'étaient pas autorisés à agir au sein des Beaux-Arts. Mais Marc Riboud fut un des rares accrédités. Et il en reste ces photos, quelques-unes, prises pendant les affichages sur les murs. D'accord. C'est très sympa. Hein. C'est vraiment un livre à lire et à voir.
Édition alternative. Ça vaut combien? Parce
ça vaut
que moi, je vais
euros.
Me l'offrir.
30 euros.
Et je vous signale à propos d'expositions photographiques qu'il y a deux grandes expos photos actuellement à Paris. Une de Willy Ronis dans le 19e arrondissement et une de cet immense photographe américain James Nashtway. C'est à la Maison européenne de la photographie. Ouais. Notamment, c'est lui qui a photographié le 11 septembre à New York. Hallucinant ce qu'il a réussi à faire. Il était au pied
très
des tours.
Monsieur.
Enfin bon, voilà. Donc Nashtway et Willy Ronis.
Ouais.
La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante dans un court instant. Thierry Denis va se retourner et repartir sur le bord des routes parce que c'est là-bas. Voilà, sur la 10 sans doute, pour découvrir la biodiversité moderne. Quant au mobilier de jardin quasi gratos, c'est avec Laetitia, bien entendu. À tout de suite. Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante. D'abord avec vous Thierry Denis, nous avions commencé d'en parler hier. En ce début d'été, la flore des bords des routes nationales et des autoroutes en France, dites-vous, est d'une extrême diversité.
Oui, et je l'affirme, des fleurs ravissantes, centaurées, salicaires, laurier de Saint-Antoine et même des orchidées. Mais attention, des espèces jadis communes, hélas aujourd'hui menacées, car elles sont coincées d'une part entre l'urbanisation galopante et d'autre part la friche qui envahit les pâturages faute de bergers. Elles ont en France de moins en moins d'espace pour vivre.
Et c'est comme ça qu'elles trouvent un abri au bord de route.
Et donc, vous avez tout compris. Je sais, ça peut surprendre, mais nos bords de route sont un paradis pour les fleurs, les insectes, les oiseaux, parce que presque tous les milieux naturels sont là. Le sec et le plat avec l'accotement, l'eau avec le fossé, la bonne terre avec le talus. Il y a même parfois une haie en bonus.
Allez,
plus, la route serpente. Il y a un côté à l'ombre, l'autre au soleil. Ces bords de route sont pleines de milieux différents et donc propices à la vie.
Et donc, on dit que les autoroutes, c'est bien.
Bah oui, c'est vrai. Et donc, du coup, ça, c'est un
j'aurais
refuge.
J'aurais tout entendu.
C'est un refuge pour les fleurs, pour les petits oiseaux.
Oui, c'est un refuge. Mais, l'homme est ce qu'il est. Et donc, c'est un refuge que nous détruisons souvent.
Ah bah, comment ça glyphosate. Je croyais que c'était génial.
Pas du tout. Jusque dans l'année 70, l'entretien de ces talus se faisait avec une faux ou une barre de coupe. Il fallait des mois pour faucher tous les accotements. Alors, les fleurs avaient le temps de monter à graines, donc de se reproduire. Les insectes avaient donc toujours quelques plantes pour s'abriter, et les oiseaux, toujours quelques insectes ou quelques graines à manger.
Mais alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
Le broyeur, avec le tracteur, a remplacé la faux. Un broyeur, c'est une machine redoutable, c'est rapide, ça hache tout, ça fait propre après, surtout quand on le place trois fois dans l'année. Le problème, c'est qu'il n'y a plus que l'herbe qui survit.
Et du coup, pour empêcher l'herbe, on met du glyphosate. Hein. Exactement. Voilà. Bon, on en a pris conscience déjà aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, Thierry. Les bords de route semblent un peu moins massacrés qu'auparavant.
Oui, depuis quelques années, le broyage est, disons, plus soft. Pendant la grande pousse de juin, on ne broie que ce qui est près du goudron, pour des raisons de visibilité, pour les automobilistes.
Oui,
le reste, l'arrière, n'est en principe broyé qu'en automne, après la maturité des graines. Donc, c'est mieux. Seulement, il y a un hic.
Il y a un hic, alors c'est
quoi? Voilà autre chose.
Et ben voilà. Ces broyeurs broient trop près du sol. Au lieu de broyer à 10 cm de la surface, leurs dents ravagent souvent le terrain. Surtout quand il est détrempé. C'est une catastrophe pour les bourgeons souterrains, les galeries des abeilles solitaires et plein de petites bestioles qui est là-dessous. Bref,
il suffit de régler la garde.
Exactement, mais personne ne le fait. Bref, tout ce qu'on avait épargné en été, on le détruit à la fin parce que les broyeurs n'ont pas une garde au sol suffisante. Elles tuent au lieu de simplement nettoyer.
Bah écoutez, il faut absolument que les responsables de l'entretien des bords de route disent à leurs gars qui conduisent ces machines, vous remontez la garde de 10 cm, puis l'affaire est réglée.
Vous parlez d'or.
Il existe des broyeurs mieux conçus qui respectent le sol.
Tout à fait.
La sauvegarde de la biodiversité.
Moi, je voulais que vous nous mettiez des petites étiquettes partout le long des autoroutes pour repérer les fleurs.
La garde à 10 cm, merci beaucoup.
C'est clair,
c'est incroyable. Incroyable.
C'est des gestes.
Laetitia Nallet, vous avez un très bon plan ce matin pour ceux qui cherchent du mobilier de jardin à petit prix.
Oui, je vous propose un canapé pour 20 euros, un bar pour 3 euros, une table pour 13 euros, une chaise pour 2 euros. Ça vous va, Bernard?
Maximum, évidemment, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre la main à la pâte.
Exactement, il va falloir bricoler et très peu dépenser en achetant seulement des vis et en utilisant comme matière première des palette.
Oh.
Alors, c'est pas forcément compliqué.
Ah bon ?
Pour faire un banc, il faut prévoir 4 heures et évidemment, il faut quand même être équipé de certains outils. Mais ça vaut le coup parce que vous allez pouvoir faire du sur-mesure.
Mmh. Laetitia, je suis pas le dieu du bricolage. Ouais. Je sais pas trop si j'y arriverai sans modèle, sans guide.
Alors, moi, justement, j'ai un livre à vous proposer, Mon mobilier de jardin en palette de Françoise Manceau-Guillermont. Dans cet ouvrage, elle vous explique tous les pas
faut
à pas.
Se méfier parce que ce sont des gens qui savent faire. Et donc, c'est super joli et quand vous essayez,
oui, mais
ça ressemble
vraiment,
à rien.
C'est très, très bien expliqué à l'intérieur. Et en plus, il y a quelques idées sympas, comme pour la table, par exemple. Elle propose d'intégrer une jardinière au centre de la table. Mm-hmm. Alors, une jardinière, c'est quoi ? C'est un bac à fleurs en plastique qui deviendra bac à glaçons.
Oh, c'est
pour
le rosé
aux fraises. C'est bien comme idée, ça.
Non, ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la barrière fleurie.
Ah, alors là, coût de fabrication, 3 euros. Il faut imaginer une palette posée à la verticale qui sert de brise-vue pour se cacher des voisins, par exemple.
C'est mieux que le mur en parpaing.
Et sur cette palette, on va venir rajouter des planches d'une autre palette qui vont former des bacs pour disposer des fleurs. C'est sympa, hein,
très joli pour les plantes aromatiques et ça marche très bien.
Ouais.
Très
et en plus, ça reste étroit, comme ça mange pas trop de place sur votre terrasse.
Ouais.
Si vous feuilletez les pages, vous découvrirez aussi un bac de culture surélevée, une table de rempotage, un bain de soleil et un petit placard que j'adore pour le jardin.
Ouais.
C'est un petit placard avec une porte pour ranger son matériel de jardin.
Mm-hmm.
Et sur le dessus, il y a un bac dans lequel vous pouvez faire pousser des plantes.
Alors, un bon petit coup de peinture, j'imagine que c'est indispensable. Ça reste longtemps sur la
table. Le lazurer, le protéger, parce que l'idée, c'est que les meubles restent dans le jardin l'hiver si on n'a pas de place pour le ranger. Hein. Et pour les protéger, eh bien, Françoise, elle propose un traitement écolo, une lasure à la bière.
Oh, mais ça, c'est nouveau, ça tient.
Alors,
vous n'avez jamais parlé de ça encore.
Vous mélangez 25 centilitres de bière avec des pigments.
Oui.
Ça, c'est pour la couleur. Vous ajoutez une cuillère à café d'essence de térébenthine. Vous secouez. Et voilà, une lasure à appliquer sur le bois pour le colorer en 2 ou 3 couches. Vous allez lui donner la couleur. Attention, parce que ça ne va pas vraiment le protéger.
Oui, oui.
Pour le protéger, après, il faudra passer une couche d'huile ou de vernis.
Oui. Voilà. Et Laetitia qui ne dit rien, mais regardez qui je retrouve en préface de ce livre.
Laetitia,
Oui, vous savez pourquoi? Parce que Françoise, elle m'a contactée, elle m'a avoué avoir commencé à bricoler en regardant mon émission à la télé.
Oh,
et aujourd'hui, elle est devenue super pointue, elle est formatrice, écrit des livres pour vous apprendre à bricoler. Donc je vous conseille.
C'est la preuve par neuf qu'on a une vague utilité,
Laetitia.
Léna va dépasser le maître, là.
C'est bien, ça. En tout cas, le livre est bien. Ça s'appelle Mes créations en palette de Françoise Manceau-Guillermont et c'est sorti aux éditions Terre Vivante.
Moi, je le veux bien.
Au modeste prix de 14 euros, mes amis. Je vous souhaite une excellente semaine.
Merci Bernard.
Soyez bons, soyez sages, revenez samedi.
À la semaine prochaine.
Au revoir.